Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de Lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Enola Richer pour sa toute première au micro de Podcasting.
Nous proposons aujourd'hui un numéro exceptionnel, un hors-série. Nous réalisons occasionnellement ces épisodes longs pour aller à la rencontre d'une actrice ou d'un acteur de l'actualité du Grand Sud-Ouest. À notre micro aujourd'hui, deux militants originaires du Sud-Ouest. Ils sont engagés dans la lutte contre l'homophobie dans le sport et dans le football en particulier. Bonjour Pascal Brett, bonjour Julien Pontès.
Bonjour.
Bonjour.
Pascal Brett, vous venez de Dax et vous avez dirigé pendant plus de 10 ans l'équipe de foot et l'association Paris Foot Gay. Julien Pontès, vous avez été le dernier président de Paris Foot Gay. Après la dissolution de l'équipe en 2015, vous avez cofondé ensemble le collectif d'experts militants Rouge Direct, en référence au carton rouge, qui lutte contre l'homophobie dans le sport. Vous en êtes aujourd'hui les deux porte-parole. Alors Julien, vous nous accueillez aujourd'hui chez vous, au-dessus d'une école, puisque votre mari en est le directeur. Ensemble, nous allons revenir longuement sur l'histoire et les combats du Paris Foot Gay et de Rouge Direct, et sur la manière dont tout cela a évolué ces deux dernières décennies. Mais un mot d'abord sur l'actualité qui nous amène à nous réunir autour de ce micro. Le 14 mai, à l'approche de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, la Ligue de football professionnel a appelé les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 à arborer durant leurs matchs un maillot floqué arc-en-ciel aux couleurs de la communauté LGBT+. Une action symbolique qui a été considérée par de nombreux militants LGBT+, comme insuffisante face aux cris homophobes qui résonnent dans les stades depuis des décennies. Mais au-delà de cette insuffisance au regard de ces acteurs, une polémique a éclaté. Elle concerne le milieu de terrain du PSG, Idrissa Gana Gueye. Le Sénégalais aurait refusé de porter ce maillot au flocage tricolore, et ce pour la deuxième saison consécutive. Une décision qui est motivée selon lui par ses convictions religieuses. Mais une décision qui, pour vous, est symptomatique d'une homophobie récurrente dans le football, Julien Pontès.
Oui, je vous confirme que ce triste épisode est en fait un révélateur très explosif de tensions qui traversaient le monde du football et sa part d'homophobie qui est une part à la fois très taboue mais à la fois très spectaculaire à travers des chants homophobes très violents. Donc oui, là on a effectivement eu un phénomène latent, tabou, qui a explosé à la figure de tout le monde et qui n'est pas encore fini, loin de là.
Alors, au-delà du cas particulier de Gana Gueye, mais bon, pas si particulier que ça, on l'a compris, la volonté affichée de la Ligue de football de lutter contre l'homophobie, est-ce qu'elle vous paraît sincère ou en tout cas de nature à faire évoluer durablement les choses ?
En fait, il suffit de regarder le résultat pour s'apercevoir qu'il y a une gêne, un malaise parmi les joueurs du Paris Saint-Germain. On voit qu'il y a un très grand malaise au sein même de la direction du club pour s'exprimer librement et se comporter tout simplement comme un employeur qui sanctionne un joueur qui refuse de jouer. Enfin, on voit qu'il y a un grand malaise et que la LFP et les clubs n'ont pas mené un travail de fond sur les questions d'homophobie. Déjà, nous, en 2019, avec Pascal, on était dans les stades à l'occasion de l'opération Brassard Arc-en-Ciel, hein, toujours pour le 17 mai. On avait remarqué que beaucoup de joueurs ne portaient pas le brassard arc-en-ciel. On nous avait répondu de manière tout à fait ridicule que c'était à cause de la qualité des brassards qui ne tenaient pas. Nous, personne n'était dupe. Hein. Il y avait un problème, déjà, en 2019. Et la Ligue aurait dû faire sérieusement son travail et le faire jusqu'au bout, et convoquer les joueurs qui avaient refusé de porter le brassard arc-en-ciel, leur demander quelles étaient leurs motivations pour refuser de soutenir la communauté LGBT, et peut-être que 3 ans plus tard, on ne serait pas comme ça dans cette situation qui est ubuesque avec le cas de Idrissa Ganagay.
Nous allons revenir sur la façon dont l'homophobie gangrène encore aujourd'hui le sport, mais on va aussi avec vous évoquer les combats que vous avez menés ces 20 dernières années. Pascal, le Paris Foot Gay est né en décembre 2003. En deux mots, le Paris Foot Gay, c'était quoi ?
C'était une association de lutte contre l'homophobie, et en parallèle, on avait une équipe de foot qui était un peu la vitrine de notre action militante. On s'est créé en décembre 2003, et très rapidement, en fait, on s'est appelé Paris Foot Gay pour faire PFG en référence à PSG, c'était un jeu de mots, et on ne pensait pas qu'on travaillerait aussi rapidement avec le PSG, puisque juste l'année d'après, il y a eu une banderole homophobe ou un chant homophobe, je ne sais plus, au parc, et de là, on a rencontré les dirigeants du PSG, et a commencé un long partenariat avec le PSG, qui a été très fort et très important avec ce club.
Quelles sont les conditions dans lesquelles, à l'époque, vous avez créé cette association, et puis avec qui ?
Alors, c'était avec quelqu'un avec qui je joue au foot au FC Paris Arc-en-Ciel. Et c'est le premier et unique club, à l'époque, qui était homosexuel, enfin, qui accueillait des homosexuels. Et moi, je jouais dans un club traditionnel, entre guillemets, à Paris, dans le 15e. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça peut être sympa, parce que je commençais à arriver à la trentaine, donc j'avais un petit peu assez de me cacher. Donc je suis allé à Arc-en-Ciel et effectivement c'était génial parce que c'est la première fois que je pouvais vivre mon homosexualité sans me cacher. Donc voilà, ça a été une histoire révélatrice et pour moi qui a été le déclencheur du militantisme d'après grâce à ce départ de Paris Arc-en-Ciel, par contre qui est un club communautariste. Voilà. Il n'y a rien de mal à être communautariste, mais ce n'est pas ce qu'on voulait faire. Ce qu'on a fait après avec Paris Foot Gay, c'est ce qu'on ne voulait pas.
Justement, quelles ambitions est-ce que vous aviez quand vous avez lancé Paris Foot Gay ?
Enfin, honnêtement, les ambitions au début, elles étaient vraiment très minimes. On ne pensait vraiment pas atteindre le niveau qu'on a atteint. Donc au départ, on s'est dit, on verra bien, on lance la machine. Et donc, de fil en aiguille, une fois que le PSG nous a apporté son soutien et nous avons commencé à mener des actions avec eux, voilà, ça s'est enclenché comme ça. Après, on a adhéré à un mouvement européen qui est le mouvement phare, Football Against Racism in Europe. Donc de là, peu de temps après, on est allé à Barcelone, au stade de Barcelone. Donc c'était une découverte, parce que là, on était accueillis par le club de Barcelone. De fil en aiguille, on a fait la charte contre l'homophobie qu'on a proposée au club, enfin d'abord à la Ligue de football professionnel. Il faut savoir que c'est avec, grâce au PSG que j'ai pu rencontrer le président de la Ligue, qui était à l'époque Frédéric Thirier, qui est quelqu'un de très ouvert et de très intelligent. Et il a mis, je sais pas, un an avant de signer la charte, mais ça a été fait au final assez rapidement, je crois que c'était en 2008. Et de là, après, le PSG a été le premier signataire avec une convention de partenariat. Et on a fait plein d'actions à Paris, qui a été un révélateur pour pas mal de clubs. Et ça se passait bien. Donc, et à l'époque, il y avait quand même des supporters ultra de Boulogne, tout ça. Et ça se passait bien malgré tout. Donc on a fait des levées de rideaux. Un levée de rideau, c'est un match avant le match, ça n'existe plus du tout maintenant. Donc on en a fait 3 en tout, dont le premier qui était marquant puisqu'on a joué contre les anciens du Paris Saint-Germain. Donc évidemment, sur les réseaux sociaux avant le match, de la part des supporters de Paris, ça a été, ils vont s'en prendre d'une, les PD, parce que sous-entendu, les PD, ça ne sait pas jouer au football. Il se trouve que Paris Foot Gay, c'était pas une équipe d'homosexuels. Hein. Il y avait, je ne sais pas, à l'époque, il y avait 4 ou 5 homos. C'était pas un critère d'être homosexuel pour jouer au Paris Foot Gay. Et au final, on a réussi à gagner, enfin de façon miraculeuse, contre le Paris Saint-Germain, enfin les anciens du Paris Saint-Germain, ce qui était assez incroyable. Donc dans le titre du Parisien le lendemain, c'est Paris Foot Gay gagné contre les anciens du Paris Saint-Germain, ce qui était énormissime pour nous. Bon, c'était un énorme coup de chance, hein, faut l'avouer. Et on a été sauvés par la pluie parce qu'on menait 2-0, ils ont égalisé à 2-1 et il s'est mis à pleuvoir des tonnes d'eau et on a été obligé d'arrêter. Et donc la victoire était pour nous.
Cette charte dont vous parlez, elle consistait en quoi concrètement ? Elle appelait le club à faire quoi ?
C'était basique en fait. Je me rappelle très bien d'une anecdote avec le président de Bordeaux, Jean-Louis Triot, qui avait signé cette charte, qui m'avait dit « je suis absolument d'accord avec le point numéro 4 qui est d'aider par ce biais-là, un footballeur qui serait homosexuel à être mieux dans sa peau et dans son football. Et pour ça, pour moi, c'est important. Et effectivement, voilà, toute la charte était basée là-dessus, quoi, que les clubs dénoncent l'homophobie s'il y en a une, que le club aide un homosexuel hein, si demain il venait à faire son coming out dans le club. Enfin voilà, qu'il n'y ait pas de problème structurel et que le joueur qui arrive dans ce club-là puisse se dire « je suis à l'aise quoi qu'il arrive ».
Vous avez acquis une légitimité et une crédibilité qui vous ont amené à être des partenaires réguliers de la Ligue, mais aussi de certains clubs professionnels, comme vous venez de le dire. De quelle manière est-ce que vous avez travaillé pour imposer cette thématique de la lutte contre l'homophobie et la faire exister, notamment auprès des médias ?
Déjà, on n'a rien imposé du tout. Ça s'est fait vraiment par les rencontres et par un travail au quotidien, avec des rencontres de gens importants comme Alain Queza, comme Vika Jorasso, qui a accepté d'être notre parrain, ce qui n'était pas anodin à l'époque, puisque aucun quasiment footballeur parlait de cette thématique. Et lui, il a accepté d'être notre parrain, alors qu'il était à l'époque joueur du PSG et titulaire en équipe de France. Et il partait en Coupe du Monde. Bon, Vikash, c'est une personnalité, il s'en foutait complètement, et donc il était cash. Donc ça a fait que petit à petit, les choses sont développées, et après, il y a eu des événements qui ont fait que les choses ont évolué. C'est-à-dire, par exemple, il y a eu le match de foot qui a été annulé pour raisons religieuses, les Créteil Bébel qui ont refusé de jouer contre notre club. Donc du coup, ça a fait un tonnerre médiatique absolument hallucinant, et ce qui a fait aussi évoluer les choses, parce qu'à l'époque, cette histoire-là, de fait que les médias s'en sont emparés, de fait que ça a eu un retentissement quasi mondial, Ramayad s'est saisi de l'opportunité et nous avons fait un travail avec elle assez important qui malheureusement a été arrêté très rapidement parce qu'elle a été évincée au profit de Douillet, qui on peut pas dire que soit très gay-friendly. En tout cas, Ramayad était très volontaire, elle avait créé, on avait créé ensemble plein de choses, et elle avait fait une rencontre avec les supporters au Stade de France, qui était un énorme événement. De là, de fil en aiguille, on a rencontré des responsables de supporters de Bordeaux, de Montpellier.
Julien ?
Oui, je rebondis sur ce que dit Pascal, parce que l'année 2010, en effet, c'est une année, l'année charnière, parce qu'il y a ce fameux match du Créteil-Bébel avec une équipe amateur de Créteil qui refuse de jouer contre le Paris Foot Gay à cause du nom Paris Foot Gay, en expliquant, sans y voir forcément de mal, qu'en tant que musulman, c'est contraire à leur principe de jouer contre une équipe d'homosexuels. Mais à vrai dire, c'est une forme d'homophobie qui est inconsciente, en fait. Bon, ça leur paraissait incongru de jouer contre une équipe qui s'appelait Gay. Ils ont été débordés, hein, ces pauvres joueurs du Créteil Bébel. Hein. Comme disait Pascal, il y a eu une vague d'indignation légitime, hein, qui les a totalement dépassés. Hein. Je crois que l'équipe s'est dissoute pas longtemps après, mais je parle de cette année 2010, parce que c'est à ce moment-là, moi, que j'entends parler du Paris Foot Gay, parce que, avec tout ce qu'il avait déjà créé avec les clubs, les politiques au plus haut niveau commencent à regarder un peu en face cette réalité de l'homophobie. Si vous voulez, on peut dire que la lutte contre le racisme dans le football date de 89, hein, avec un match au Vélodrome où Joseph Antoine Bell, le gardien noir de Bordeaux, ancien joueur de l'OM, reçoit des centaines de bananes. C'était vraiment à partir de là que la lutte contre le racisme dans le football a été enclenchée, même si on est loin du compte là aussi. Et on peut dater de 2010 la lutte en tant que politique publique nationale, au moins la reconnaissance de l'homophobie dans le football, et où Ramayad se saisit du problème et elle fait en fait un espèce de copier-coller. Le ministère des Sports fait un copier-coller de la charte contre l'homophobie dans le football de Pascal et des fondateurs du Paris Foot Gay. Et elle fait signer cette charte à tous les présidents de fédérations françaises sportives. Un geste symbolique extrêmement important. Je crois que on n'a peut-être jamais été aussi loin dans la reconnaissance de l'homophobie dans le sport et dans le football. au moins avec une charte. Hein. Après, les plans d'action, les actions concrètes, on les a rarement vues. Et au-delà de Ramayad, la mairie de Paris, à ce moment-là aussi, commence à s'intéresser à ce qui se passe au Paris Foot Gay. Hein. Moi, j'ai travaillé à l'époque à la mairie de Paris. Et je rencontre Pascal, et on se rencontre, on discute. Et là, je me souviendrai toute ma vie, il m'explique un jour que... T'as pas compris, en fait, on n'est pas un club de joueurs homosexuels, on est une association de lutte contre l'homophobie, c'est-à-dire que notre but, c'est d'arriver à jouer en tant qu'homo, en tant qu'hétéro, peu importe, on s'en fout, dans le milieu sportif courant. Et là, je me dis, waouh, il se passe un truc très important dans le combat pour, on va dire, le droit à l'indifférence. On n'est plus là pour jouer au badminton entre bisexuels ou entre homosexuels ou handball entre lesbiennes. Non, on est là pour être soi-même, n'importe où. Et à partir de là, je découvre en fait ce que c'est qu'un chant homophobe. Je pense que c'est important de donner à entendre ce qu'est un chant homophobe, la violence d'un chant homophobe. Il faut tuer ces PD de Parisiens, il faut tuer ces PD de Lyonnais dans un stade. Des milliers de personnes qui chantent entre guillemets ça, des appels au meurtre, à la provocation à la haine, bon bah ça fait, c'est dur quoi, c'est très dur et je comprends, je mesure en fait, grâce au travail du Paris Foot Gay et à Pascal, je mesure.
Justement, on parlait de l'aspect médiatique de votre combat, est-ce que vous avez trouvé facilement des relais auprès de la presse ou des journalistes sensibles à ces thématiques-là?
Oui, toujours, puisque à chaque fois il y a eu un élément déclencheur. En fait, quand il se passe rien, c'est difficile de faire quoi que ce soit avec la presse. Mais dès qu'il y a un événement, bah, ça déclenche tout. Le seul problème avec tout ça, c'est que le buzz passe et que les journalistes ne reviennent jamais en arrière. Et ça, c'est un vrai souci. Ce qui se passe avec le joueur du PSG, ça fait 2 jours de buzz. Là, c'est en train de retomber. Parce que dans une semaine, ils vont revenir dessus pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, pourquoi le PSG n'a pas déclaré quoi que ce soit et pourquoi la Ligue n'a pas déclaré quoi que ce soit. On n'a pas de bilan sur quelque chose qui est arrivé.
Vous en parliez tout à l'heure, au fil de votre lutte, vous avez pu compter sur le soutien de personnalités publiques. Il y a eu par exemple Alain Cézac, l'ancien président du PSG. Il y a eu aussi la couturière Agnès B qui vous a suivi très tôt, Pascal.
En fait, Agnès, c'est l'élément déclencheur du Paris Foot Gay aussi, parce que je travaillais en fait chez Agnès B, au service de presse. J'avais de plus en plus d'interviews et je devais aller soit dans des radios, soit dans des studios télé. Et c'était la journée. Et plus ça allait, et plus... elle m'a octroyé de l'argent pour faire des choses, de son temps, puisqu'elle a accepté même d'être marraine, alors qu'elle n'avait quasiment jamais accepté d'être marraine de quelconque association, parce qu'elle est très très demandée. Elle a donné le coup d'envoi d'un match avec le maillot du PSG sur la pelouse. Enfin, elle a fait vraiment énormément de choses. Elle a été fantastique, vraiment fantastique. Et elle nous a financé énormément. C'était quasiment la moitié du budget de nos activités. Et ça a été un soutien moral énorme.
On pourrait bien sûr citer d'autres figures médiatiques qui ont soutenu votre combat, mais il y en a une qui, je crois, a une place particulière dans votre cœur aussi et dans celui des amateurs de football. Il s'agit de Loulou Nicolin, le regretté président du Montpellier Hérault, un personnage du foot français dont le soutien n'était pas vraiment acquis à la base. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire?
Louis Nicolin, je me rappelle très bien du jour où c'est arrivé. J'ai mon téléphone, j'étais à mon bureau, et le téléphone sonne, et c'était Katia Mourad, directrice de la communication de Montpellier, qui me dit « Bonjour, Louis Nicolin voudrait signer la charte de l'homophobie ». J'ai dit « Mais c'est une blague ». Quand la Ligue a signé la charte contre l'homophobie, elle l'a proposée à tous les clubs. Le PSG l'avait signé, mais il n'y avait que 2 clubs qui avaient signé à l'époque, et puis chaque année, il y avait un club qui signait, et donc... Montpellier, ils n'étaient pas dans les tuyaux, a priori, et donc ça arrivait d'un coup. Et en plus, je crois que Nicolin avait fait des déclarations un peu...
Julien ?
Ce qui s'est passé, c'est que Louis Nicolin, qui était le président du club de Montpellier, avait traité Pedretti de petite tarlouse. Et à ma connaissance, c'est une des rares fois où un acteur principal du football professionnel avait eu une sanction, en fait, pour un motif d'homophobie par la Ligue de foot professionnel. Et c'est à partir de là où Louis Nicolin a pris conscience en fait qu'il y avait un problème avec l'homophobie décomplexée, banalisée dans le football, et que finalement, c'était pas si naturel que ça de dire PD, tapette, tarlouse. C'est là où il a cherché à faire amende honorable, on va dire, et qu'il a contacté Pascal pour signer la charte contre l'homophobie.
C'était vraiment marquant, parce que moi je suis un fou de foot depuis tout petit, donc Louis-Nicolin, ça faisait partie des figures qui n'existent quasiment plus maintenant, de président mythique du football français. Et donc, quand on est allé pour signer la charte contre l'homophobie à Montpellier, on est allé pour un déjeuner. Et au début, c'était un peu tendu. Et puis, au fil de la conversation, ça s'est complètement détendu. Et en fait, il me posait des questions. C'est comme Alain Cézat qui m'avait dit, quand j'avais proposé de devenir le président du Paris Foot Gay, il m'a dit, est-ce qu'on peut en rire ? Voilà. Et je trouvais ça très intéressant comme question, parce que c'est exactement ça. En fait, les gens qui ne connaissent pas forcément l'homosexuel sont un peu coincés, quoi. Oui, on peut en rire, on n'est pas atteint d'un cancer en phase finale. Donc, c'est pas un souci d'être homosexuel. Donc, Nicolin, bah, il a fait surtout un acte très, 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 très important. C'est-à-dire qu'il a accepté de finir le clip vidéo avec les joueurs de football. Et à la fin, on lui a fait dire... c'était quoi ?
La phrase de Louis Nicolin, c'est « Laissez tomber l'homophobie, c'est pour les petites tarlouses ». Voilà ce qu'il disait à la fin de la vidéo.
En référence, donc, avec ce qu'il avait dit sur Pedretti. Et ça a fait un gros buzz. C'est passé sur toutes les télés, à des heures de grande écoute. Et c'était une note d'humour absolument incroyable et un pied de nez absolument incroyable.
Je voudrais soulever un autre aspect dans ce que dit Pascal, c'est que finalement, on a eu le soutien de beaucoup personnalités, joueurs hétéros, dans la lutte contre l'homophobie. Et c'est très important de montrer que c'est pas juste l'affaire des LGBT, hein, c'est pas juste l'affaire des gays, l'homophobie, c'est l'affaire de tout le monde. Pour nous, c'est très important, hein, comme Louis Nicolin ou comme Michel Hidalgo, etc. Bon, c'est très important pour nous d'avoir le soutien des hétéros. Je peux dire que des gens comme Arthur Champollion, ou Julien Lusignier, ou Hichem, ou bien... J'en passe, Jérôme Andréi aussi, Pierre Valentin aussi. Bon, voilà, je ne vais pas tous les citer, mais enfin, ça a été des relais, des soutiens fondamentaux dans un parcours qui est extrêmement difficile.
Entre sa création et sa dissolution en 2015, sur laquelle nous allons revenir après, le Paris Foot Gay a livré de nombreuses batailles, dont certaines ont donné lieu à des polémiques d'importance. Quelles ont été celles qui vous ont le plus marqué, Julien ?
Je pense que... Ce qui a été le plus marquant, vraiment, hein, ça a été l'année 2013. C'est l'année où Pascal et le Paris Foot Gay avaient commandité une enquête très importante pour mesurer le niveau d'homophobie dans le foot professionnel. Normalement, c'est à la fédération, à la ligue, au ministère de mettre en place un observatoire, de faire des remontées de signalements, etc. Bon, là, il se trouve que Pascal a pris la main parce que personne ne le faisait. On a eu les résultats de l'enquête en avril 2013, et cette enquête qui a été menée par Anthony Met de l'Université de Bordeaux a montré que 41% des joueurs de foot pro et 50% des jeunes footballeurs en centre de formation avaient des opinions hostiles aux homosexuels. Ça a fait comme un coup de tonnerre, parce que là on avait des chiffres qui étaient alarmants. Avec Pascal, on s'est dit, bon, là on a mis sur la table un vrai problème qu'on a réussi à mesurer. Et forcément, il va y avoir un plan d'action. Les autorités politiques, sportives vont chercher à améliorer le climat d'homophobie dans le football. Or, on a constaté que la Ligue de football professionnel ne voulait plus trop entendre parler de ces histoires d'homophobie dans le football, parce que ça faisait quand même des chiffres impressionnants. Et les plans d'action qui auraient été nécessaires de mettre en œuvre à la hauteur du problème étaient compliqués. Et il fallait reconnaître un problème d'ampleur, et la Ligue et les clubs n'étaient pas du tout prêts à accepter de reconnaître la mesure du problème. Donc, à partir de là, on a senti que la Ligue préférait s'appuyer sur d'autres partenaires plus complaisants, moins exigeants que nous. C'était devenu plus difficile d'être entendu. Il y avait plus trop de sons, plus trop d'images au niveau de la Ligue de foot quand on leur demandait « Bon, bah, alors qu'est-ce que vous faites ? Vous relancez les clubs professionnels pour qu'ils signent les chartes ?» Bon, plus de nouvelles. On sentait que là, on était devenus un peu les mauvais garçons, les actes piens, les radicaux de la cause, alors qu'on demandait juste à la Ligue d'agir en cohérence avec les chiffres sur l'homophobie qu'on avait mis sur la table.
Je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire Julien, qui est absolument très juste. Là, on était en face d'un médecin qui vous annonce « Monsieur, vous avez un cancer en phase terminale, mais on va pas faire de la chimio, on va vous donner un doliprane ». Et c'est exactement ça. Enfin, ils étaient en face d'un énorme problème, mais plutôt que de le traiter, ils ont préféré balayer dans le revers de main et de dire « bon, on va continuer comme ça ». Voilà. Donc maintenant, ils font des actes une fois par an avec des maillots couleur arc-en-ciel. C'est bien, c'est de la com, et c'est pas uniquement de la communication qui vont faire changer les choses.
Dans la suite de ce que dit Pascal, on assiste, mais de manière extrêmement claire, à un recul, un retour en arrière de 10 ans. Parce que là, on voit, ils se gargarisent de leur maillot arc-en-ciel et pour dire si un joueur fait son coming out, on le soutiendra. Mais ils font ça en 2022. Mais enfin, excusez-moi, mais la Ligue de foot professionnelle a signé la charte contre l'homophobie en 2008. 14 ans plus tôt, on en est là. Ils finissent toujours par être rattrapés par la réalité de l'homophobie dans le foot. Bon, là, avec l'affaire Idrissa Ganagay, évidemment, qui sont pris la main dans le pot de chocolat de leur inaction depuis 10 ans. On est un peu consterné par cette inertie, cette lâcheté par rapport à un problème qui pourrit la vie de tant et tant de gays qui sont obligés de cacher qui ils sont. On peut rappeler quand même le suicide du joueur de football Justin Fashuanu, qui avait fait son coming out dans les années 90 et qui avait fini par se suicider, ou bien le livre de Wissem Belgacem qui est sorti l'année dernière, qui est un joueur gay franco-tunisien qui a failli devenir pro, mais à cause de l'homophobie dans le football professionnel, sa carrière il n'a pas eu sa chance pour devenir un joueur professionnel. Bon, l'homophobie, elle tue. Le taux de suicide chez les jeunes gays, il est 4 fois plus important. Donc maintenant, ça suffit. La Ligue de football professionnel, les clubs de football professionnel, maintenant, vous prenez vos responsabilités. On ne vous demande pas de vous mettre à quatre pattes hein, ou de devenir gay ou je ne sais quoi. Non, on vous demande juste de reconnaître qu'il y a un problème d'homophobie. Et deuxièmement, de mettre en place des actions pour faire reculer ce phénomène. Et on voit avec l'exemple de Louis Nicolin que juste par le dialogue, par la sanction aussi, hein, parce que la prise de conscience de Louis Nicolin, ça commence par une sanction. Nous, Rouge Direct, on signale des chants homophobes avec des appels au meurtre de supporters. On les signale à la Ligue de foot professionnelle. Les clubs ne font rien. La Ligue ne fait rien. Ils n'appliquent pas le règlement. Bon, comment est-ce qu'on peut se satisfaire de cette situation ? Nous, c'est vrai qu'on est fatigué, on en a assez. Quelquefois, on a envie de raccrocher les crampons. Mais on ne peut pas, on n'arrive pas à se dire que l'homophobie remportera le match. C'est impossible pour nous d'accepter de baisser les bras.
Est-ce qu'il y a eu quand même des moments forts pour vous qui vous ont vraiment donné l'impression que votre travail portait ses fruits, ou au moins partiellement ?
Oui, à l'époque où la Ligue a signé la charte, je me suis dit « ça y est, c'est fini, quoi, mon combat est terminé ». Je pensais vraiment, sincèrement, mais naïvement, je pensais que c'était terminé. Quoi. Je me dis, la Ligue s'en emparait, c'est terminé. Donc la Ligue demande au club de signer la charte. Moi, je me suis dit, tous les clubs vont la signer, naïvement. Non, deux clubs la signent. Enfin, c'est juste surréaliste. Il y a eu une espèce de bonne vibration à ce moment-là, qui a été détruite par la Ligue et par les ministères et par la FFF juste après, où ils n'ont pas voulu continuer dans cet élan qui était important et primordial, à savoir de faire de la formation et de faire de la formation sur les professionnels eux-mêmes, parce qu'on voit bien que le problème majeur, et c'est pas moi qui le dis, c'est Frédéric Thierry qui l'a dit récemment dans une interview, la solution, elle viendrait des joueurs professionnels eux-mêmes. C'est-à-dire que si tous les joueurs professionnels étaient unanimes, si tous les joueurs de l'équipe de France, par exemple, lors d'un rassemblement dit, même s'il y a un joueur homo dans notre équipe, c'est pas un souci, mais pourquoi ils ne le font pas tous ? Enfin, il y a un réel problème. Ils sont tous d'accord pour mettre un pied à terre, quasiment, donc pour contre le racisme. Il y a un vrai souci avec l'homophobie. Up behind the bus stop in the toilets of the street, there are traces of a killing on the floor beneath your feet. Mixed in with the piss and beer are bloodstains on the floor from the boy who got his head kicked in a night or two before. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. Homophobia, the worst disease.
disease. You can't love who you want to love in times like these. In the pubs, clubs and burger bars, breeding pens for pigs. Alcohol, testosterone and ignorance and fists. Packs of hunting animals roam across the town. They find an easy victim and they punch him to the ground. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these.
En 2015, je le disais, vous avez donc pris la décision de dissoudre Paris Foot Gay. Pour quelle raison ?
C'est parce qu'il y a eu une usure totale. Non, franchement, je voyais vraiment pas ce qu'on pouvait faire d'autre. Et toutes les portes étaient ouvertes pour que ça évolue. Et ça a vraiment évolué parce qu'en 2003, quand on a commencé, personne ne voulait en parler. C'était un vrai tabou. Donc là, on est arrivé au bout d'un cycle, puisque la Ligue a refusé d'aller plus loin que tous les efforts qu'ils avaient faits avant. Donc bah, c'était le temps d'arrêter.
Malgré ces déconvenues-là, vous avez cofondé ensemble le collectif Rouge Direct. Qu'est-ce que c'est que ce collectif et en quoi c'est différent du Paris Foot Gay, Julien ?
Tout le monde savait qu'on était les vrais seuls acteurs de la lutte contre l'homophobie dans le football. Les vrais à exiger des choses concrètes. Bon, donc les journalistes étaient... ils ont pris ça au sérieux, cette fin d'aventure... Tout le monde l'a prise au sérieux. Et puis, en 2016, il y a eu l'Euro de football en France. Ça correspondait au moment de l'attentat de Orlando, où il y a eu 49 morts dans un club LGBT. C'était une tuerie homophobe. C'était à l'époque la plus grande tuerie des États-Unis. Bon, on attendait un hommage, une minute de silence pendant l'Euro. En hommage aux victimes, aux 49 victimes de l'attentat homophobe d'Orlando. Bon, évidemment, tout le monde s'en fout, hein, dans le football hein, en tout cas. On voit qu'il y a une pétition qui est en train de monter pour demander un hommage officiel aux victimes d'Orlando pendant l'Euro 2016. Et donc j'ai rencontré Benjamin Sachs qui avait été à l'origine de cette pétition. On a conjugué nos efforts pour faire plier l'UEFA, parce qu'attention... Même endormis, on est toujours des militants qui sont prêts à ressurgir quand quelque chose ne va pas dans l'homophobie. On a fait une très grosse tribune avec 49 signataires, des personnalités françaises de tous horizons. Ça allait de Roselyne Bachelot à Marie-Georges Buffet, en passant par la chanteuse Jennifer ou bien Jean-Luc Mélenchon. Enfin voilà, il y avait 49 personnalités de tous horizons qui exigeaient un hommage aux 49 victimes. Et on a fini par obtenir satisfaction. L'UEFA avait diffusé un message très mal écrit avec plein de fautes d'orthographe en hommage, entre guillemets, à ces morts. Bon, c'était en 2016. On a eu... une proposition de relancer une action, mais sous un format plus réduit que le Paris Foot Gay, sous la forme d'un collectif et pas d'une association, donc. Un collectif dont le nom serait Rouge Direct. C'est notre ami Julien Lusignier qui nous a proposé quelques idées de communication, d'organisation, et on a fini par céder à ces propositions. Après y avoir bien réfléchi, on s'est dit qu'on avait quand même beaucoup trop travaillé pour... laisser tomber ce combat. Et fin 2016, on a créé donc ce collectif Rouge Direct contre l'homophobie dans le football.
Et quelles sont les actions menées par Rouge Direct, Julien ?
Eh bien, Rouge Direct, c'est un collectif de lanceurs d'alerte contre l'homophobie dans le football. C'est-à-dire que nous, on a décidé de réduire un peu le périmètre de nos actions. Il n'y a plus de formation, il n'y a plus d'équipe de foot. Il y a simplement le pôle, on va dire, plaidoyer. C'est-à-dire que on a une expertise. On a 15 ans d'expertise, une histoire riche avec le monde du football. Et aussi avec les supporters. Et donc, à partir de là, on s'est dit qu'on allait être plus franc du collier, on va dire, signaler et donner à entendre, donner à voir ce que c'est que l'homophobie. Ouais, c'est très moche, hein. Un chant homophobe, je vous garantis que c'est horrible. Donc, il y avait à la fois la volonté d'être cash dans la communication, Hein, on a un site internet, un compte Twitter, un compte Facebook où on balance. Voilà, bonjour la Ligue, qu'est-ce que vous pensez de ce chant homophobe qu'on a entendu dans le stade Intel ? Peut-être que vous pourriez les sanctionner parce que c'est dans le règlement du championnat de France de football. Donc bon, voilà. On a décidé aussi de passer plus facilement à l'action en justice, notamment quand la ministre des Sports en mars 2019 a pu entendre d'elle-même les chants homophobes des supporters parisiens au Parc des Princes contre les supporters de l'OM. Elle est ressortie de là en disant « Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est horrible. Ben oui, oui, c'est de l'homophobie. Puis ça dure depuis quelques années déjà. » Donc c'était bien hein, de sa part à Madame Maracineanu à nu de dire que l'homophobie c'est vraiment insupportable. Oui, on est d'accord. À partir de là, on s'est dit si elle est partante aussi pour mieux sanctionner l'homophobie dans le football, bah allons-y. Donc on a fait un crowdfunding, vous voyez, on a récolté de l'argent pour dire bah, donnez-nous de l'argent et puis nous on va porter plainte contre la Ligue de football professionnel. Parce qu'elle n'applique pas le règlement sur les chants homophobes. Voilà, et puis on a fait aussi des signalements. On a signalé des chants homophobes au stade Bollaert du RC Lens. Et bon, voilà, bah c'est un chant homophobe vraiment horrible, chanté par le capot, vous savez, celui qui lance les chants en tribune. Et pourtant, on aime le RC Lens. Simplement, la poignée d'imbéciles qui chante. OVA, bande de PD, bon, ben ça, ça nous va pas. Donc, on a signalé le chant homophobe en 2019. Le préfet du Pas-de-Calais a été mis au courant de ce chant homophobe qu'on avait signalé. Il a fait un signalement au parquet, au procureur de Béthune. Et à partir de là, bah, la Ligue de foot professionnel, elle était bien obligée d'engager une action disciplinaire contre le RC Lens qui a pris une amende de 50 000 euros. Donc voilà, avec Pascal, c'est vrai que là, on a senti qu'on avait un outil, avec le collectif Reject, on avait un outil qui pouvait nous permettre de faire reconnaître le problème de l'homophobie et non seulement de le faire reconnaître, mais de le faire sanctionner. On est arrivé à faire bouger les choses, une fois pour le RC Lens, et puis quelques semaines plus tard, pareil, avec les supporters de Grenoble, on a réussi à faire sanctionner une banderole homophobe qui avait été déployée dans le stade à Grenoble. Donc le début de Rouge Direct a été un nouveau départ avec une bonne efficacité.
Alors, on en revient à l'actualité, en tout cas celle de ces dernières années. D'abord, est-ce qu'on peut dire qu'il y a aujourd'hui encore une homophobie omniprésente dans le sport et dans le football en particulier ?
Oui, Wissem Belgacem, dont je parlais tout à l'heure, il en témoigne. On sait que c'est très difficile de faire des signalements parce que un joueur gay, il va plutôt quitter le club plutôt que d'aller à l'encontre de la norme du groupe. Dans le foot professionnel, il y a zéro coming out. Ça, c'est sans doute le meilleur indicateur pour mesurer la chape de plomb qui pèse sur les joueurs gays. Dans le championnat de France, statistiquement, il y a forcément des joueurs gays. C'est impossible autrement, c'est pas sérieux de dire qu'il n'y a pas de joueurs gays en activité dans le foot professionnel. En revanche, il y a zéro coming out. Bon, voilà, un bon indicateur de l'homophobie dans le football. Maintenant, comme vous le disiez, on a acquis une légitimité hein, dans le paysage. Le ministère des Sports nous considère aussi comme des interlocuteurs et on a des échanges réguliers avec le ministère des Sports. On est exigeant, on est sans concession, mais on sait aussi travailler en bonne intelligence avec eux. On sait très bien jusqu'où ils peuvent aller, jusqu'où ils peuvent ne pas aller. On leur dit clairement que nous, on manque d'indicateurs. On avait mené une enquête en 2013, c'était déjà pas à nous de le faire, mais plutôt aux instances du football. Mais que maintenant, c'est à eux, ministère des Sports, d'exiger de la FFF et de la Ligue de foot professionnel de mettre en place des enquêtes sérieuses pour mesurer l'homophobie voilà, je sais pas, chez les supporters, dirigeants de clubs, les joueurs, etc. On y verra plus clair. Et pour le moment, le ministère des Sports, ils répondent à cette demande qu'ils n'ont absolument pas ces données, vu que la Fédération française de football, alors là, c'est aucun intérêt de leur part pour les questions d'homophobie dans le foot amateur ou bien dans le foot professionnels. Enfin bon, ils sont pourtant délégataires d'une mission de service public hein, par le ministère des Sports, mais ces valeurs-là de respect dans la pratique du football, ça les intéresse pas beaucoup.
Comment peut-on expliquer que cette homophobie existe et perdure ? On a quand même le sentiment que la société progresse sur ces questions.
Le monde sportif français et les responsables des fédérations sont très conservateur sur les questions d'orientation sexuelle. Vous voyez, on a un président de la Fédération française de football, Noël de Grette, qui a été réélu à la tête de la Fédération française de football il y a peu de temps, alors qu'il déclarait il y a quelques années qu'il n'arrêterait pas les matchs de football pour des faits d'homophobie, pour des faits de racisme, oui, mais pas pour l'homophobie. Donc on était vraiment discriminés parmi les discriminés. Mais bon, ça gêne personne, étant donné qu'il a été réélu largement à la tête de la Fédération française de football.
Oui, je voulais rajouter une chose par rapport à ce dont a parlé Julien avec la ministre des Sports, qui a été, pour le coup, très très courageuse et qui a fait quelque chose qui aurait pu marquer et changer un peu le cours des choses, de l'histoire peut-être, à savoir l'arrêt des matchs en cas de chant homophobe. Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps, puisque le président de la Fédération française de football a sifflé la fin de la récréation. Ce qui les intéresse, c'est de faire des actions, ce qu'on appelle nous du pinkwashing, des actions avec des maillots arc-en-ciel, de faire des clips et de la communication positive. Voilà. Après, dès qu'il s'agit de prendre des sanctions envers des problèmes réels, c'est fini, il n'y a plus personne.
Julien ?
Dès qu'on a entendu Noël Le Graët prononcer ses propos sur France Info un matin, les bras m'en sont littéralement tombés. Et nous sommes un petit collectif, mais extrêmement déterminé. Alors, David contre Goliath, on sait comment ça se termine. Hein. C'est le petit qui finalement arrive à écraser le gros. Eh bien, c'est ce qui s'est passé avec cette déclaration de Noël Le Graët. On a tout de suite interpellé nos avocats qui nous ont dit « Eh ben, écoutez, ce que vous allez demander, là, dans les médias, c'est que M. Le Graët retire ses propos. » Parce qu'en tant que président de la Fédération française de football, tout ce qu'il déclare a valeur réglementaire. C'est-à-dire que quand il dit « Moi, j'arrête plus les matchs pour l'homophobie », ça veut dire que c'est comme s'il y avait un article du règlement qui disait « Nous n'arrêtons plus les matchs pour homophobie. » Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh ben, nos avocats ont écrit un courrier à M. Le Graët pour lui demander de retirer ses propos. Et nous avons fièrement affiché le courrier de réponse de M. Le Graët avec sa belle signature qui nous dit qu'il retire en effet ses propos. Ça nous fatigue parce que dans d'autres pays, être sportif et homosexuel, franchement, ça pose aucun problème. Je pense à l'Europe du Nord, par exemple. Bon, nous, en France, mais qu'est-ce qu'on attend en 2022 pour dire une bonne fois pour toutes que être homosexuel, ça rend pas plus malhabile sur un terrain de foot, dans un bassin de piscine? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises de considérer les homosexuels comme des gens qui n'ont pas la même dignité n'ont pas droit au même respect que les autres, encore plus dans le monde du sport. Quand est-ce que ça va changer, cette histoire-là? Bon, certains diront qu'on n'y arrivera jamais. Nous, on a tendance à vouloir espérer que ça changera réellement en tenant bon. Il faut tenir bon, il faut ne rien laisser passer. Ça, c'est aussi une des caractéristiques de Rouge Direct. C'est ne rien laisser passer, ne jamais baisser la tête, ne jamais raser les murs, ne jamais accepter des compromis qui vont à l'encontre des valeurs universelles de respect des personnes.
Vous jugez l'action de la Ligue insuffisante. Qu'est-ce qu'elle pourrait ou devrait faire, selon vous, pour lutter efficacement contre l'homophobie aujourd'hui ?
Des choses, je pense, peu de choses, mais des choses simples et un peu exemplaires. En termes de prévention, écoutez, une chose simple. On a été auditionné en 2019 par la mission parlementaire sur le supporterisme. On a rencontré donc Marie-Georges Buffet et Sacha Houlier. Ils nous ont interrogés sur ce qu'il faudrait faire pour faire reculer l'homophobie dans le football. Alors moi, j'ai pris la parole, puis j'ai demandé, vous avez auditionné la Ligue de football professionnel? Ils vous ont donné un calendrier, des actions de formation qu'ils allaient mettre en place pour les entraîneurs, pour les actions de sensibilisation en direction des supporters, aux questions d'homophobie, parce que c'est pas naturel pour un supporter de savoir ce que c'est que l'homophobie. Il faut déjà les informer que c'est un délit et pas une opinion, et qu'ils risquent des poursuites pénales s'ils ont des propos homophobes, y compris dans un stade. Alors, ils vous ont donné ces éléments-là? Ah ben non, rien du tout. Il n'y a pas de calendrier, il n'y a pas de moyens humains. Et le problème, c'est que les chiffres, ils sont là, c'est qu'il y a 75 000 supporters affiliés à des clubs, rien que pour la Ligue 1. Ça veut dire que ça fait un certain nombre de personnes à qui il va falloir s'adresser et mener des actions de sensibilisation en leur direction. Il n'y a pas de plan d'action. Et je ne parle même pas d'un plan d'action de la FFF pour le football amateur avec 2 millions de licenciés en France. En ce qui concerne la sanction, comme je le disais tout à l'heure, nous on signale des faits d'homophobie clairs, nets, précis dans les stades de football. Le règlement est clair, net, précis en cas d'actes homophobes ou racistes ou antisémites dans les stades de football. Si la Ligue ne veut pas sanctionner les faits d'homophobie, ces actions de prévention qui sont déjà indigentes, elles n'ont aucun sens. Moi je ne peux pas être plus clair là. On est dans une situation ubuesque, ridicule. On se moque de nous, c'est pour ça que les choses n'avancent pas. Alors voilà, il faut sanctionner. Bon, attention, la sanction par la commission de discipline de la Ligue de foot professionnelle, c'est pas non plus couper les têtes. C'est juste dire, voilà, bon, bonjour le Paris Saint-Germain, voilà, il y a un problème avec vos supporters, ils ont crié, on va les tuer, ces PD de Marseillais. Bon, ça pose un problème par rapport au règlement. Et là, le PSG dit, écoutez, oui, d'accord, oui, là, il y a un problème. Bon, on a essayé de voir avec les supporters pour leur expliquer qu'il ne faut pas le faire. Bon, alors, dans ce cas-là, on fait une graduation dans la sanction. Nous, on ne demande pas à ce qu'on s'emmerde dans les stades, qu'il n'y ait pas de chant, qu'il n'y ait pas de cri, qu'il n'y ait pas de joie. On veut de la fête dans les stades. On veut juste qu'il n'y ait pas d'injures, ni racistes, ni homophobes. C'est tout. Donc, la sanction, c'est pas un tabou. La sanction, ça permet des prises de conscience aussi. Bon. Et puis, la sanction, elle peut être pédagogique. En Hollande, il y a un système de sanctions qui n'est pas une interdiction de stade très dure sur 3 ans, 5 ans, 10 ans pour un supporter qui a un comportement homophobe, mais il y a un système de stage de sensibilisation. Un supporter qui va crier des injures homophobes, eh bien, on va lui dire, écoute, tu fais ton stage de sensibilisation, et puis on te rend ton abonnement au stade, au match, et tant que tu n'auras pas fait ton stage de sensibilisation avec une association LGBT, ton abonnement il sera suspendu, et puis on te le rendra quand tu auras fait le stage. Voilà. Il y a des choses, il y a 1000 choses intelligentes. On a 1000 propositions qui sont sur la table depuis longtemps. Par contre, il y a un manque de volonté qui est total de la part des instances du foot. Il y a une inertie dont on ne voit pas le bout.
Un dernier mot un peu plus personnel avant de se quitter. Au fil de ces années, vous vous êtes engagé dans cette lutte. Vous avez été cible d'attaques, y compris personnelles, parfois très dures. Avec le recul, est-ce que vous vous dites que le jeu en valait la chandelle? Est-ce que vous le referiez, Pascal?
Si j'avais une boule de cristal, je ne referais pas forcément les choses de la même façon, ça c'est une chose. Après, les choses se sont déroulées comme elles se sont déroulées, avec des erreurs de part et d'autre. Ce qui est important, c'est l'historique du combat. On a été les premiers à faire évoluer les mentalités sur cette thématique. Maintenant, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Clairement, au bout de 10 ans, non. C'est pour ça aussi que j'ai arrêté Rouge Direct il y a 2 ans maintenant. Julien fait un travail remarquable, je ne sais pas comment il tient le coup, et je regarde ça de plus loin, et je suis en admiration devant le travail de Julien et devant tout ce qui subit, tout ce qu'il fait. Voilà.
Et vous, Julien ?
Oui, donc les attaques personnelles, alors ça dépend, parce qu'on a des vagues de messages haineux, de menaces de mort, de fous furieux, parce qu'on mène un combat, comme je le disais, qui est très très difficile. Moi, je suis plutôt extrêmement satisfait, grâce à Pascal, d'avoir trouvé un terrain de lutte pour faire avancer les droits, parce que bon, après tout, à travers le football, on s'adresse à toute la société. Le football, c'est le sport le plus populaire, c'est le sujet médiatique numéro un, c'est des enjeux financiers colossaux, et puis c'est un sport populaire, donc ça doit rassembler le peuple dans toute sa diversité. Alors, comment est-ce qu'on peut regretter d'avoir eu la chance de mener un combat pour l'égalité, pour le respect ? Moi, je ne peux pas avoir une once de regret par rapport à ça. Je suis très confiant pour l'avenir. Hein. Je crois que notre spécificité à Rouge Direct, c'est quand même d'aller de l'avant. Et la spécificité, c'est aussi de rencontrer de nouvelles personnes, d'intégrer de nouvelles personnes qui apportent une fraîcheur, une nouvelle détermination. Moi, je me nourris énormément des nouvelles arrivées, des nouvelles personnes qui veulent s'engager et qui nous apportent une expertise, un coup de main, une détermination renforcée qui nous fait avancer, qui nous fait surtout ne pas lâcher ce combat. Et je pense à ça parce qu'on vient d'être rejoint par un ancien arbitre international qui a fait son coming out le 17 mai dernier, après de longues années très difficiles dans ce milieu très homophobe qu'est le football. Et voilà, il nous apporte énormément de bonheur. Ces nouvelles personnalités qui arrivent dans le collectif, ça nous fait du bien et ça nous fait avancer.
Merci beaucoup Pascal Brett et Julien Pontès d'avoir été avec nous. Le travail et les actualités de Rouge Direct sont à retrouver sur leur site internet rougedirect.org et sur les pages Twitter et Facebook du collectif.
Merci Enola Richet, c'est la fin de cet épisode de podcasting, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myriane Garay-Coetchea, Mathilde Leuil et Marion Ruot, iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Taïeb, réalisation Olivier Duval et notre stagiaire communication, c'est Paul-Hugo Guilloton. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.